le magazine des Nations Unies.
L'élection de la RDC comme membre du Conseil des droits de l'homme n'est pas un satisfait si, c'est un signe d'encouragement. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH estime qu'il y a encore des sources d'inquiétude en matière de droits de l'homme dans ce pays. Nous entendrons le directeur ad intérim du Bureau conjoint dans cette édition. Résurgence de la polio en RDC. Le pays a enregistré 9 cas cette année selon l'UNICEF. Nous entendrons à ce sujet le porte-parole de l'équipe pays du système des Nations Unies en RDC. Enfin, la Cour pénale internationale fait l'état de lieu des affaires en situation en République démocratique du Congo. Mac Yuen reçoit pour vous l'assistant du bureau de la CPI à Kinshasa. Il sera notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine. Et nous commençons par cette information. Les 3 experts internationaux du Conseil des droits de l'homme sur les violences dans les Kasaï sont déjà à pied d'œuvre en RDC. Mercredi dernier à Kinshasa, ils ont échangé avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani. Les 3 experts se rendront ce mardi sur le terrain à Kananga. Pour rappel, le Conseil des droits de l'homme a, dans sa résolution du 28 juin dernier, désigné donc les 3 experts sur la situation dans le Kasaï. Devrait rendre compte au Conseil en mars 2018 et le rapport final est attendu en juin prochain. La République démocratique du Congo a enregistré 644 violations de droits de l'homme en septembre 2017, soit une augmentation de 46% par rapport aux 441 violations documentées au mois d'août. Cette recrudescence se traduit sur le terrain par le nombre élevé d'exécutions sommaires et extrajudiciaires et des atteintes aux libertés fondamentales dans le pays. Ces chiffres ont été révélés dans le rapport mensuel du Bureau conjoint aux droits de l'homme, publié ce mercredi au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Le point avec Jean-Pierre Elali, ICO.
Les rapports mettent en cause les agents de l'État, à savoir l'ANR, les FARDC, la police nationale, ainsi que les groupes armés, toutes tendances confondues. Abdelaziz Tchouyé, directeur AI du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Les agents de l'État ont commis 58% de ces violations, dont l'exécution sommaire de 82 personnes. Les groupes armés ont été responsables de 270 atteintes aux droits de l'homme, dont un nombre important d'exécutions sommaires, entraînant la mort de 134 personnes.
Selon le rapport, la plupart des violations ont été localisées dans les provinces de l'Est affectées par les conflits. Fait tout de même positif les actions notables de lutte contre l'impunité.
En septembre, mon bureau a continué d'appuyer les activités des juridictions militaires dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Au moins 42 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et 10 agents de la PNC ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC.
À noter aussi l'adoption le 29 septembre par le Conseil des droits de l'homme d'une résolution sur l'assistance technique, le renforcement des capacités sur le droit de l'homme en RDC.
Abdelaziz Thieu revient sur le sujet dans Décryptage. Autre actualité, alors que la RDC était déclarée pays sans polio en 2015, le pays a enregistré 9 cas de polio cette année dans les provinces du Maniema et du Olomami, selon l'UNICEF. Information livrée mercredi dernier par le porte-parole de l'équipe de communication du système des Nations Unies et chargé de communication et plaidoyer de OCHA au cours de la conférence de presse des Nations Unies. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la polio, célébrée le 24 octobre. Les propos de Yvon Edoumou sont recueillis ici par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Bien que la RDC ait été déclarée pays sans polio depuis novembre 2015, 9 cas ont néanmoins été enregistrés dans les provinces du Maniema et du Olomami depuis le début de l'année, selon le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui fait partie des acteurs majeurs dans la lutte contre cette maladie. UNICEF et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sont parmi les acteurs qui soutiennent l'État congolais dans les campagnes de vaccination des enfants de 0 à 59 mois. Cependant, au moins 5% des enfants ciblés ne sont pas vaccinés à chaque passage pour plusieurs raisons, notamment les absences des enfants, c'est-à-dire que les enfants ne sont physiquement pas présents à la maison au moment du passage des équipes de vaccinateurs et le refus des parents pour divers motifs de faire vacciner leurs enfants.
Depuis le début de l'année, le programme élargi de vaccination et ses partenaires techniques et financiers ont pu vacciner plus de 10 millions d'enfants sur toute l'étendue du territoire national.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'élection de la RDC comme membre du Conseil des droits de l'homme n'est pas un satisfait-ci, mais un signe d'encouragement, estime le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Abdoul Abdelaziz Thioy, directeur ad intérim du BCUNDH, reconnaît qu'il y a des problèmes de respect des droits de l'homme dans ce pays, à la lumière du rapport mensuel que son bureau vient de publier. Il s'entretient avec Jean-Pierre et Lali Ikoko.
Abdelaziz Thioy, bonjour.
Bonjour.
Nous allons commencer par une question d'actualité. La RDC, parmi les pays membres du Conseil des droits de l'homme, un commentaire de la part du bureau conjoint, est-ce que c'est un satisfait-ci pour la RDC ou même pour le bureau conjoint?
Disons que c'est un motif d'encouragement, hein. Donc je pense que j'ai un peu commenté là-dessus en disant effectivement que la RDC a été élue démocratiquement, si tant est qu'on puisse le dire ainsi, parce que l'élection s'est déroulée à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc... Les électeurs, c'était les États membres. Les États membres qui élisent un autre État pour faire partie du Conseil des droits de l'homme. Je pense que c'est une élection démocratique. Donc je pense qu'il n'y a pas de commentaire particulier à faire de ce point de vue-là. Mais surtout, ce que je tiens à souligner, c'est dire que nous espérons, c'est sur une note d'espoir, hein, que l'élection serve de catalyseur pour un meilleur respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je crois que, et je l'espère profondément, que le gouvernement congolais, en décidant de présenter sa candidature pour être membre du Conseil des droits de l'homme, a en vue définitivement de se conformer aux dispositions de la Charte des Nations Unies, mais également davantage d'être un peu plus respectueux des engagements souscrits librement. Le pays a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux.
Oui, mais si on s'en tient à l'actualité, c'est un peu contradictoire avec les arrestations. Vous avez parlé des 32 personnes qui ont été arrêtées, même si elles ont été libérées, mais c'est un peu contradictoire avec ce qui s'est passé au niveau de Genève.
Alors, c'est pour ça que j'ai dit, en termes de satisfaction, ce n'est pas un satisfaction qui est décerné au pays pour son comportement vis-à-vis sur le plan des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas la base d'appréciation. Il y a des problèmes, évidemment, je crois que de ce point de vue-là, nous sommes tous d'accord là-dessus, y compris les autorités qui reconnaissent qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes. Des problèmes pour ce qui est du respect des droits humains. En particulier, et ce que nous en notons aujourd'hui et que nous déplorons à longueur de rapports que nous publions et partageons avec la presse et les autorités, il y a des restrictions à l'exercice des libertés démocratiques. La liberté de manifester, il y a une mesure d'interdiction générale de manifester, ce qui est contraire à l'esprit des lois congolaises, la Constitution. Vous ne pouvez pas interdire aux gens de manifester de façon générale et la mesure ne peut pas être illimitée. Donc, voilà.
Tout à l'heure, vous avez parlé des violations des droits de l'homme. Le bureau conjoint vient de publier les rapports mensuels de septembre de cette année. Est-ce que nous pouvons avoir les principales tendances de ces rapports?
Nous avons noté pour septembre 2017, 644 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC. Nous avons noté que c'est une augmentation de 46% par rapport au mois d'août 2017.
Donc, c'est une régression en ce qui concerne justement le respect des droits de l'homme.
Oui, la tendance est toujours très élevée. Nous avons à peu près une moyenne de 400 et quelques violations en moyenne sur, si on regarde les tendances, une moyenne de 477 par mois, ce qui est très très élevé. Et les agents de l'État, comme je l'ai mentionné, se retrouvent avec 374 violations, soit 58% des violations documentées. J'ai noté effectivement qu'il y a eu 82 personnes victimes d'exécutions extrajudiciaires. Et les groupes armés sont responsables de 270 atteintes aux droits de l'homme, et nous notons avec augmentation le nombre de victimes d'exécutions sommaires aussi par les groupes armés, 134 personnes, dont 16 femmes et 33 enfants. Du point de vue global, il n'y a pas d'amélioration du tout. Il y a toujours des sources d'inquiétude quant à la situation des droits de l'homme, liées à des facteurs liés au contexte politique de façon très claire, et liées également à la recrudescence de la violence armée dans les provinces qui sont affectées par le conflit aujourd'hui. Et nous avons noté une recrudescence de l'activisme des groupes armés qui aussi est très très inquiétante, avec une incidence extrêmement importante sur la situation des droits de l'homme et également la situation humanitaire. Ça génère des pertes en vies humaines, des blessés, des viols, des enfants et des destructions de propriété, et également des déplacements de population. Comme je l'ai indiqué pour ce qui est des efforts de lutte contre l'impunité, où nous avons noté quelques progrès, nous avons noté quelques progrès, il faut le dire, à l'actif de la justice militaire congolaise, qui augmente davantage ses performances pour tout ce qui est des enquêtes et des poursuites. De façon très claire, il y a un nombre assez important de décisions qui ont été rendues. On a noté en septembre 2017 42 militaires FARDC et 10 agents de la police nationale qui ont été condamnés. Il se pourrait qu'il y en ait plus, peut-être des informations que nous n'avons pas reçues, mais au moins c'est ça les chiffres. Donc c'est à l'actif de la justice militaire congolaise et il faut le souligner. Ça contribue aux efforts de lutte contre l'impunité.
Ok. Toute une dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une résolution du Conseil des droits de l'homme qui insiste sur l'assistance technique et aussi sur le renforcement des capacités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu brièvement cette résolution?
La résolution, elle est extrêmement importante. Malheureusement, l'attention porte beaucoup plus sur d'autres aspects que la résolution qui, quelque peu, crée le cadre de coopération entre mon bureau, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les autorités congolaises. Dans un certain nombre de domaines qui concernent à peu près tout ce qui est renforcement des capacités en matière de conformité des lois nationales avec les engagements librement souscrits par le pays, renforcement des structures du système national de protection. On y retrouve la justice, la police, l'armée et l'administration en général qui contribuent à ces efforts réellement de protection des droits de l'homme. Parce que ça concerne également le renforcement de certaines institutions qui ont été mises en place par le pays, le comité interministériel qui s'occupe de tout ce qui est l'organe interministériel qui s'occupe de la rédaction des rapports et du suivi des recommandations qui ont été faites par les organes qui se rattachent aux conventions ou les procédures spéciales qui font des recommandations pour améliorer la situation du pays ainsi que aussi la mise en œuvre de l'examen périodique universel. Il y a aussi le renforcement des capacités et l'appui à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui, conformément au principe de Paris, joue le rôle de national, ce qu'on appelle institution nationale indépendante des droits de l'homme.
Comment vous allez les appuyer, ces institutions-là, par exemple?
Alors, nous avons un rôle technique qui nous est attribué. Je voudrais rappeler que nous sommes composants de la MONUSCO, mais nous sommes également, ici dans le pays, nous représentons le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et à ce titre, nous avons le rôle technique. Nous sommes le secrétariat du Haut Conseil des droits de l'homme. Que le Congo soit élu aujourd'hui comme membre du Conseil des droits de l'homme, ça nous renforce davantage et nous engage davantage dans la coopération et le dialogue pour le suivi des engagements que le pays a librement souscrit.
Abdulaziz Tchoye, Radio Kapi, vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nous ouvrons cette page de nouvelles en bref par le volet droits de l'enfant des Fondations Unies pour l'enfance. UNICEF appelle tous les acteurs politiques et sociaux en RDC à s'engager et à se mobiliser contre le mariage d'enfants. Un appel lancé en marge de la publication, le 23 octobre dernier à Dakar, au Sénégal, d'un rapport statistique sur le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et dans ce rapport, l'UNICEF évoque une étude démographique et de santé de 2013-2014, selon laquelle 43% des femmes sont en union avant 18 ans et plus de 3/5 le sont avant 20 ans. D'où la nécessité, insiste l'agence tunisienne, de se mobiliser autour du plan d'action 2017-2021 du gouvernement pour mettre fin à la pratique des mariages d'enfants. UNICEF toujours. Nous sommes dans le Sud Kivu. Au total, plus de 47 000 personnes des zones de santé de Calais et de Katana pourront bénéficier dans les tout prochains jours d'un projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable. Un projet de l'ONG internationale, T-Found, en partenariat avec l'UNICEF et le gouvernement belge. Ce projet consiste à installer des fourrages mécaniques avec un système de pompage à énergie solaire. À ce jour, plus de 27 000 personnes des 13 villages de Calais ont déjà accès à l'eau potable dans le cadre de ce projet. Les travaux sont donc en cours dans 13 autres villages de ce territoire, alors que pour la zone de santé de Katana, 20 000 autres personnes bénéficient de ce même projet. Enfin, vos lettres de l'homme, un atelier de renforcement des capacités au profit d'une trentaine d'avocats, de défenseurs judiciaires et des représentants d'ONG de droits de l'homme de Béni au Nord Kivu. Les travaux ont eu lieu du 24 au 25 octobre 2017. Ils ont été organisés par la section locale du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO Béni. Ils ont donc porté notamment sur la protection des victimes et des témoins de violences sexuelles avec pour thème le rôle et les bonnes pratiques professionnelles des avocats ONG dans l'assistance et l'accompagnement judiciaire et la protection des victimes et témoins des violences sexuelles dans les zones de conflit armé.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La Cour pénale internationale a initié depuis quelques années des poursuites pour 6 affaires sur la RDC. Comment évoluent ces affaires? Élément de réponse avec le chargé de sensibilisation au bureau de la CPI-RDC. C'est à l'occasion de la journée de sensibilisation sur la CPI, célébrée les jeudis derniers à l'intention des avocats membres de l'association Carrefour des avocats du Congo. Patrick Tchiboui s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Patrick Tchiboui, bonjour.
Bonjour.
Le bureau de la CPI ici à Kinshasa a organisé une séance jeudi dernier, une séance d'information et de sensibilisation sur la CPI à l'intention des avocats professionnels de droit. Quelle importance vous accordez à cette sensibilisation?
Alors, cette session que nous avons organisée à l'intention des avocats membres de l'association Carrefour des avocats congolais répond au programme que nous avons, qui est un programme de sensibilisation spécifique pour les praticiens de droit, que sont notamment les avocats et les magistrats. Pourquoi les avocats? Parce que les avocats congolais, notamment, prestent pour certains d'entre eux devant les juridictions nationales congolaises en ce qui concerne les crimes internationaux. Donc, ils sont intéressés au plus haut point de savoir exactement comment fonctionne le droit international pénal à travers la Cour pénale internationale, mais également des avocats congolais qui seraient intéressés à faire partie de la liste de conseils des avocats devant la Cour pénale internationale. Soit dit en passant, nous avons déjà beaucoup d'avocats congolais qui sont inscrits et d'autres qui seraient intéressés à pouvoir s'inscrire ont donc besoin d'avoir plus d'informations, plus de connaissances sur la Cour, mais également le fait que la Cour a des affaires ici en RDC et là une situation qui intéresse au plus haut point les praticiens de droit, les avocats, qui aimeraient mieux comprendre l'état d'évolution de ces affaires.
Et on sait que la CPI a des affaires ici en République démocratique du Congo. Nous savons que la CPI a initié aussi des poursuites dans au moins 6 affaires en situation en RDC. Quelle est l'évolution de ces affaires à l'heure actuelle au niveau de la CPI?
Alors, à l'heure actuelle, on l'entend retenir que dans l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga, ce dernier est en train de purger sa peine ici en RDC. Il avait une fois que la culpabilité et la peine d'emprisonnement avait été confirmée. Jamais Katanga également, qui avait été transféré en RDC pour purger sa peine, a déjà purgé sa peine par rapport à la Cour pénale internationale.
Est-ce qu'on peut revoir les crimes pour lesquels ils ont été condamnés brièvement?
Alors, Thomas Lubanga a été condamné pour les crimes d'enrôlement et de conscription des enfants de moins de 15 ans, le fait de le faire participer à des hostilités. Jamais Katanga, qui était poursuivi conjointement avec Mathieu Ngoudjolo pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment dans le cas de Jamais Katanga, Mathieu Ngoudjolo, c'est qu'il faut savoir que par la suite l'affaire avait été disjointe. Mathieu Ngoudjolo, qui avait été poursuivi pour les mêmes faits que Jamais Katanga, a été acquitté depuis très longtemps.
Pourquoi?
Donc, parce que les juges ont considéré que au regard du statut de Rome qui exige pour qu'une personne soit reconnue coupable, que les juges soient convaincus de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, les juges ont dit qu'au regard des éléments de preuve qui avaient été présentés à l'issue du procès tel que ça s'est déroulé, les juges ont considéré qu'ils n'étaient pas convaincus de la culpabilité de Mathieu Ngoudjolo au-delà de tout doute raisonnable comme l'exige le statut de Rome. Et donc pour Germain Katanga, lui qui a été reconnu coupable, il a déjà purgé sa peine, il était également transféré en RDC pour purger sa peine. Il a purgé sa peine par rapport à la Cour pénale international, mais s'il reste en détention, c'est parce qu'il est poursuivi pour d'autres faits par la justice congolaise.
Bon, la justice militaire.
La justice militaire congolaise. Mais pour d'autres faits, c'était important de le préciser, après avoir eu l'aval de la présidence de la Cour pénale internationale qui a estimé qu'effectivement les charges ne portaient pas sur les mêmes faits pour lesquels elle était reconnue coupable devant la Cour pénale internationale, et la présidence a donc autorisé ces poursuites nationales. Le procès Bosco Ntaganda est en cours, nous sommes dans une phase très très avancée. Maintenant, c'est la défense qui présente ses éléments de preuve. Une fois que cela sera terminé, les juges rendront leur décision dans un délai raisonnable. Mais j'aimerais rappeler que dans l'affaire Jamel Katanga, nous avons les réparations qui sont très avancées.
Et c'est la question que je voudrais poser en ce qui concerne les réparations dans toutes ces affaires.
Nous avons un processus qui est très avancé dans l'affaire Jamel Katanga, où nous avons une décision des juges accordant des réparations individuelles et collectives à 297 victimes, des réparations qui sont mises en œuvre par le biais du fonds profit des victimes. Donc le processus est véritablement très avancé. Nous avons également les réparations dans l'affaire Thomas Lubanga, où là nous sommes à l'attente de cette décision des réparations, mais le processus est également très avancé. Et nous aurons également des réparations dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Il est important de signifier qu'on ne peut avoir des réparations devant la Cour pénale internationale que si l'accusé est reconnu coupable. Mmh. C'est ainsi que pour M. Mathieu Ngoudjolo, comme il a été acquitté, on n'aura pas des réparations au profit des victimes. Donc.
Alors, on parlait tout à l'heure de l'affaire Jean-Pierre Bemba. C'est en situation en République centrafricaine.
En Centrafrique, effectivement.
Où est-ce que nous en sommes actuellement?
Alors, dans la situation en Centrafrique, M. Jean-Pierre Bemba, qui a été condamné dans l'affaire principale, ainsi que dans l'affaire des atteintes à l'administration de la justice, où il était poursuivi conjointement avec d'autres personnes, il a interjeté appel. Donc, nous attendons l'arrêt de la chambre d'appel quant au recours en appel que M. Jean-Pierre Bemba a introduit.
Ça pourrait intervenir incessamment ou bien les délais, on ne sait pas.
Les juges rendront cet arrêt dans un délai raisonnable. Mais à ce stade, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'ils rendront la décision. Mais si dans un délai raisonnable, nous aurons l'arrêt de la chambre d'appel par rapport au recours que M. Jean-Pierre Bemba a introduit.
Patrick Tchiboui, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et notre nouvelle de province nous emmène à Kalemi, dans le Tanganyika, où la journée des Nations Unies a été célébrée mardi dernier par la section de l'information publique locale avec les élèves du collège Mwangaza. Suivez plutôt ce reportage d'Expédie Mamba Moubi.
La salle de classe au premier niveau du collège Mwangaza est pleine à craquer. Une centaine d'élèves avec quelques enseignants sont à l'écoute. Il y a d'abord cet exposé sur les Nations Unies avec à la clé les principaux organes de l'ONU, la présence des Nations Unies dans le Tanganyika et les domaines d'intervention des organismes présents dans la province. Ici, un extrait de cet exposé par Madame Marceline Comblant, chef de la section de l'information publique de la MONUSCO Kalemi.
Généralement, quand on parle des Nations Unies, il faut voir un grand ensemble constitué de 193 États membres.
Puis, c'est au tour du groupe théâtral Samgoa de présenter un sketch sur les Nations Unies. L'exposé et le sketch ont pour but de préparer un jeu concours sur les Nations Unies. Plusieurs élèves parviennent à gagner un prix, soit un t-shirt, soit un agenda ou une casquette. Le délégué du préfet des études se dit satisfait.
On est très content de la manière dont les choses se sont passées. Ceux-là qui n'ont pas été primés, ce n'est pas le moment de vous décourager. Ceux-là qui ont été primés, félicitations.
Kalemi, Expedi Mwamba Moubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La mission de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, en RDC, préoccupe un journaliste. Le porte-parole de la MONUSCO lui répond. Suivez.
Ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sera en RDC très bientôt. Quel peut être son agenda sur le plan de la mission et sur le plan de la République démocratique du Congo?
Alors, je vous conseille de vous rapprocher de l'ambassade des États-Unis pour avoir une idée plus précise de son agenda, mais je peux vous confirmer que des rencontres sont prévues avec des responsables de la MONUSCO ainsi que d'autres responsables. Mais pour le détail, il faut s'adresser aux États-Unis d'Amérique.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Capi. Je m'appelle Askin Zigbia Tayoro. Je suis marié, père de 6 enfants. Je suis journaliste de profession et licencié en sciences politiques et administratives. C'est depuis 13 novembre 2002 que j'ai signé mon contrat avec les Nations Unies pour prêter à Radio Capi. Au sein de Radio Capi, je suis reporter senior. En même temps, je fais partie de l'équipe de coordonnateurs des news la semaine ou le week-end. Étant reporter, tout commence le matin avec la réunion du conseil de rédaction à 8h30. C'est pendant ces temps-là que je propose des sujets d'information avec des angles précis et intéressants. Si par exemple mon sujet est validé par le conseil de rédaction, je descends sur le terrain pour les reportages. Et puis s'en suivra le traitement et la diffusion de l'information après les retours du terrain. Avant Radio Capi, j'étais journaliste à Radio Télé Liberté à Guadeloupe, le fief du feu maréchal Mobutu. C'est une chaîne appartenant à MLC qui était à l'époque dans la rébellion. Et aussi, j'étais caméraman. Pendant les temps libres, je m'entraîne souvent à la guitare, puisque je suis musicien. Je fais des exercices pour ne pas perdre les doigtés. En plus de temps, de temps en temps, je me retrouve avec les amis pour échanger sur la situation sociopolitique et économique de la République. J'adore la musique, tout comme le sport, surtout le football. Ma nourriture préférée, c'est le pondu avec le riz mélangé avec la viande boucanée. En rapport avec mon projet, après Radio Capi, je préfère me créer une petite entreprise où je serai moi-même PDG afin d'utiliser les 60% des connaissances non encore exploitées jusqu'à présent à moi. Pour terminer, chers auditeurs, un petit coucou à vous. Je préfère le faire en lingala. Banamboka et Sengomingi, pour la confiance pour Pesa Radio Kapi, Yangonde et Zaliko Pesa, Binoba Sango, Yakito Kondenge Nandenge, et Zali Radio Akimia, Yapoboto, Kasina Sengi Nabanson, Koyi Kapiko, Zambi et Ibanite, et Bele Katina Bino, Bazangi Kimia, Bazangi Moussala, Bazobela, Nabaopito, Bakangami Naboloko, Bazoko Kate, Kofute Labana Kilasi, Tozala Nelikia, et si comme je suis ma vie, je suis en Zambé, je suis en Zali, 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 je suis en
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Notez que le 2 novembre, c'est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Voilà, c'est de la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, à la mise en onde Patrick Kiasongwa, à la réalisation, à la coordination, également reportage, Jean-Pierre Elali Coco. Enfin, un petit clin d'œil à honorer Missinga, également Martin Sebujango qui l'a supervisé. Alors on vous dit à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.